La Bible en 24 heures, on arrive à la 22e heure. Pas la 23e, mais la 22e. Et on va voir le début du livre de l'Apocalypse ce soir. La semaine prochaine, Dieu voulant, on terminera l'Apocalypse. Donc on va aller encore très vite. Et la dernière session, ce sera un peu une récapitulation d'ensemble sur toute la Bible. Alors, c'est vrai que l'an dernier, on a pas mal étudié les prophéties et l'Apocalypse. Pour certains, ce sera des répétitions, mais pour d'autres, j'espère que ce sera des nouvelles fraîches. Prions. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui est la vérité. Merci de l'avoir préservée, de l'avoir amenez jusqu'à nous, Seigneur, pour que nous en prenions connaissance, qu'elle puisse vraiment transformer nos vies, nous transformer. Merci pour les paroles d'Angela qui disait que les paroles de la Bible lui réchauffaient le cœur, la touchaient, changeaient son cœur, Seigneur. C'est cette puissance que nous voulons voir à l'œuvre, Seigneur, dans nos vies. On te remercie pour l'apôtre Jean et pour l'évangéliste qui a rapporté ces paroles que toi, Jésus, tu lui as dites. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen. L'Apocalypse. On va regarder ce soir les trois premiers chapitres. Le contexte historique, vous souvenez, ça se passe à la fin du 1er siècle. Patmos et l'an de aurait aimé le mettre à mort, mais il n'arrivait pas à le faire, d'après la tradition, il n'arrivait pas à le faire bouillir dans de l'eau bouillante, donc il a été exilé sur ce rocher de la mer Égée, l'île de Patmos. Et là, il a reçu une vision de l'avenir qu'il va traduire en l'envoyant à cette communauté, cette église d'Asie mineure, pour commencer, et puis à travers ces églises, à toutes les églises de tous les siècles, à l'église de tous les siècles. Quand on commence l'Apocalypse 1, verset 1, il est dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. On a différents passages de la Bible. Dans Jean 16, Jésus disait que le Saint-Esprit le glorifierait. Et dans l'Ancien Testament, on voit Christ dans les prophéties. On pourrait dire, ça nous annonce, voici, il vient. Les évangiles, eux, parlent de Christ dans l'histoire. Voici, il meurt. Le livre des Actes, c'est Christ dans la vie de l'Église. Là, le message, c'est voici, il vit. Les épîtres, on dit que c'est Christ dans notre expérience. Et là, le message, c'est voici, il sauve. Et l'Apocalypse, c'est Christ dans sa gloire future et le message, c'est « Voici, il règne ». Le mot « apocalypse », c'est un mot grec qui est traduit ici par « révélation ». C'est un mot singulier, ce n'est pas des révélations plurielles, c'est « la révélation ». Une autre traduction, c'est le dévoilement. Comme on enlève le voile qui recouvre une statue, là, on enlève le voile qui couvrait Jésus-Christ et on peut voir Jésus-Christ dans toute sa splendeur. Il est dit que nous serons bénis à sa lecture, on va voir pourquoi au fur et à mesure, mais ce qui est formidable, c'est sur 404 versets qui composent cet écrit, ce livre, il y a près de 800 références à l'Ancien Testament. Donc, pratiquement un verset de l'Apocalypse va parler de deux autres versets de l'Ancien Testament. Et souvent, les gens disent « Oh, mais l'Apocalypse, c'est bizarre, c'est étrange, il y a des choses impossibles à comprendre. » Généralement, c'est parce qu'ils ont très peu de connaissances dans le reste de la Bible. Et c'est vrai que si on commence par lire l'Apocalypse, il vaut mieux avoir des bons ouvrages pour faire référence, expliquer toutes les références aux 65 livres qui précèdent. Et en fait, là, on voit que ni plus ni moins que le plan de Dieu pour l'humanité dans l'Apocalypse. Une façon de lire ce livre, c'est vraiment comme une chasse au trésor, c'est de lire et d'essayer de retrouver l'antécédent des références de l'Ancien Testament. J'avais un professeur en école biblique qui expliquait qu'il avait lu la Bible en lisant le Nouveau Testament, et à chaque fois qu'il y avait une référence à l'Ancien Testament, il allait étudier le passage dans l'Ancien Testament. Et en fait, si on lit le Nouveau Testament et même l'Apocalypse seulement, on va apprendre beaucoup de choses sur l'Ancien Testament. La paix qui était bien, l'esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. En fait, là, on voit déjà comme au commencement de la Bible, le premier verset disait « Au commencement, Dieu pluriel créa les cieux et la terre ». Ici, on a la Trinité, c'est-à-dire les trois personnes de Dieu qui sont évoquées, un seul Dieu en trois personnes. Celui qui était, qui était et qui vient, ça c'est le Père. Les sept esprits, c'est dans l'Ancien Testament, il y a un passage du prophète Ésaïe, Ésaïe 11, qui parle des sept caractéristiques de l'Esprit Saint de Dieu. Donc ça, c'est sept esprits. Sept esprits, c'est l'Esprit Saint et bien sûr Jésus-Christ, le Fils, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. On a les trois personnages qui sont évoqués d'entrée. Il est dit qu'il a fait de nous des rois. Des rois et des prêtres, un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ça, c'est les anges n'ont pas ce statut de roi et de prêtre. Alors le chapitre 1, c'est ni plus ni moins qu'une vision du Christ ressuscité dans sa gloire. Et il y a beaucoup de détails qui sont tirés là aussi de l'Ancien Testament. Il est question, on peut lire à partir du verset 9, « Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi, c'est-à-dire plutôt translaté ou emmené d'un seul coup, en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Verset 12, « Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. » Ça, c'est une expression qu'on trouve dans le prophète Daniel. « Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. » Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Là aussi, c'est des références à des passages de Daniel 7 et 10. Il avait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Ça devrait nous rappeler Hébreux 4, 12, la parole de Dieu qui est plus acérée qu'une épée à double tranchant. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Sois sans crainte, moi je suis le premier et le dernier. » C'est la traduction de Alpha et Oméga. « Le vivant, j'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. » La plupart des passages difficiles dans l'Apocalypse sont expliqués dans l'Apocalypse elle-même. verset 20, « Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. » Les étoiles qui étaient dans la main droite de Jésus, les chandeliers entre lesquels il marchait, ça représente les sept églises. Les sept étoiles sont les anges des sept églises. Le mot « ange » en grec, ça veut dire le messager. Ça peut être l'équivalent du pasteur de ces sept églises. Et il va commencer les sept lettres. Le verset 19 est un verset clé pour comprendre l'Apocalypse. Il nous dit « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. » Ça, c'est le plan de l'organisation de cette lettre, cet apocalypse. Ce que tu as vu, c'est la vision de Jésus-Christ éternel dans sa gloire. Ce qui est, ça va être localement les sept églises et ça va être aussi le temps de l'église avec un grand E. Et ce qui va se produire ensemble, ça va être les événements de la fin des temps. Et on verra au début du chapitre 4, il est dit « après cela » et en fait la mot c'est « après ces choses-là » et c'est la même expression que « ce qui va se produire ensuite ». Verset 4, après avoir décrit les lettres aux églises, il va dire « ensuite, voilà ce qui s'est passé, il y a eu les trompettes, il y a eu le livre, les sept sceaux, etc. » On verra ça la semaine prochaine, Dieu voulant. Mais on a déjà un plan bien défini. Alors on a déjà parlé pas mal du nombre 7, on dit en langage savant qu'il y a une structure heptadique, c'est-à-dire une structure basée sur le nombre 7. Et dans la Bible, le nombre 7 symbolise quelque chose de complet, quelque chose qui est terminé, qui n'a plus à être retouché. Et ces sept églises, elles vont représenter complètement toutes les églises. Il y a plusieurs façons de considérer ces messages. On peut d'abord voir les prendre comme un message local. À l'époque, Jean, rappelons-nous, est sur l'île de Patmos, en mer Égée. Il y a des églises qui existent réellement dans ces villes de Smyrne, d'Éphèse, de Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et ces églises réelles, au siècle dernier, il y a des chercheurs bibliques qui ont fait des fouilles, qui ont retrouvé l'histoire de certaines de ces villes. Et on s'aperçoit qu'en fait, elles avaient des problèmes qui correspondent un peu au ton ou au thème du sujet de la lettre qui leur est adressée par le Seigneur. Donc ça, c'est une première façon. C'était quelque chose, à l'époque, ça marchait, c'était un message pour des églises bien, bien réelles. Il y a un autre côté, c'est, on va le voir, il est dit, d'abord, qui c'est qui a des oreilles ici? Qui n'a pas d'oreilles? Il y a quelqu'un qui n'a pas d'oreilles? Tout le monde a des oreilles, merci Seigneur. Il est dit, un thème qui va revenir, c'est que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc c'est une admonition, ça va être un encouragement, une exhortation, non seulement pour les églises, mais aussi pour chaque personne. Pour chaque individu, on a des choses à apprendre dans ce texte. Les églises doivent aussi écouter les messages des autres églises, parce que souvent on a tendance à dire « Ah oui, ça c'est pour l'église d'à côté », sans voir qu'on peut avoir le même genre de problème, peut-être pas au même niveau, mais il est bon de connaître les exhortations que Jésus donne aux églises en tant que telles. Et puis, une autre façon de voir les choses qui est très intéressante, c'est qu'en fait, c'est cette église, elle représente un peu l'histoire de toute l'église. L'église depuis que Jésus-Christ est venu sur terre et que Dieu a ouvert cette parenthèse dans son chronomètre, dans son histoire. Il a arrêté le chronomètre du peuple juif jusqu'à la 70e semaine. Et le temps de l'Église, c'est d'abord 30 années qui sont décrites dans le livre des Actes. Et en fait, l'Apocalypse, elle décrit les années qui ont suivi, jusqu'à maintenant et encore pour quelque temps. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde une carte, et donc ça correspond, cette région du monde correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Asie mineure, si on part d'Éphèse, on va à Smyrne et on continue, on fait une boucle, on passe à Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Donc il y a un ordre bien précis géographiquement, mais même historiquement, s'il y avait un autre ordre, ça ne correspondrait plus du tout à l'histoire de l'Église telle qu'on la connaît. On va voir que cette structure basée sur le nombre 7, elle se retrouve dans chacune des lettres, des 7 lettres, et chacune de ces lettres comporte au moins 7 éléments qui sont répétés à chaque fois. Il y a d'abord le nom de l'Église. Ce nom, on va voir qu'il a un sens qui n'est pas pris au hasard. C'est un sens en rapport avec le problème de l'Église, l'encouragement que Dieu veut lui donner. Il y a ensuite un titre de Jésus. Jésus s'identifie sous une des caractéristiques qui était décrite au chapitre 1. Et la caractéristique qu'il prend se rapporte au problème de l'Église en question. Il va faire un peu un bilan, c'est un peu comme quand vous recevez les notes à la fin du trimestre. Il y a les rapports positifs et les rapports négatifs, c'est-à-dire les compliments et puis les reproches. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si on ne va pas avoir le temps d'étudier en détail chacune des 7 lettres, mais vous pouvez vérifier vous-même, en fait, toutes les églises vont être surprises. Et ça devrait nous faire réfléchir tous dans nos églises. Ce que Jésus va dire à ces églises, ça va être une surprise pour ces églises. Celles qui pensaient faire bien, qui disaient « nous, on est les bons, on n'a pas de souci à se faire », Jésus va leur montrer qu'en fait, ils ont de sacrés problèmes. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, pensent qu'ils sont faibles, ils n'ont pas beaucoup d'impact. Et Jésus va leur dire qu'ils font bien. Et donc, rappelez-vous que toutes les églises vont être surprises le jour où elles seront devant Dieu. Et là, en l'occurrence, lorsque Jésus leur adresse ses lettres. Des compliments, des reproches, aussi des mesures correctives. Et puis, donc, vous avez fait ça, c'est bien, ça, c'est mal. Et voilà ce qu'il faut faire pour corriger ces choses. Suivi d'une promesse pour celui qui va vaincre, une promesse pour le vainqueur. Et puis, il y a ce petit avertissement dont j'ai parlé déjà, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Cette structure, on va la retrouver pour chaque lettre. Donc, on va essayer de passer en revue rapidement les différentes églises. L'église d'Éphèse, tout d'abord. L'église d'Éphèse, le nom Éphèse, ça veut dire la désirée, celle qui est désirée. Aujourd'hui, on dirait chérie ou mignonne. On peut voir là l'église des temps apostoliques, c'est-à-dire des années 30 après la mort de Christ jusqu'à la fin du 1er siècle, l'encens de notre ère. C'est l'église apostolique qui avait commencé avec beaucoup d'amour parce qu'il connaissait Jésus-Christ et puis qui va se refroidir. Voilà. Jésus, là, dans cette lettre à Éphèse, dit qu'il est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, et verset 2 du chapitre, les œuvres en persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais, le reproche, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Maintenant, la méthode pour corriger ça, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, menace, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place à moins que pour toi que tu as de la haine pour les ennemis, comme j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Ce mot de « mais » j'ai contre toi, c'est un mot qui fait mal parce qu'il a commencé par leur faire des compliments. Il les félicite pour leur labeur, pour leur persévérance, pour leur discernement spirituel. Ils ne se sont pas laissés tromper par les faux apôtres. Ça, c'était l'apôtre Paul dans Acte 20, lorsqu'il avait dit il avait fait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il les avait mis en garde contre les fausses doctrines et apparemment ils ont bien fait. Ils ont même souffert à cause du nom de Jésus-Christ, mais ils ont abandonné leur premier amour. Ils ont laissé un peu tomber le Seigneur. Ils étaient si occupés pour l'œuvre du Seigneur qu'ils n'avaient plus de temps pour le Seigneur lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous menacer, qui est un piège pour ceux qui travaillent notamment à temps plein dans l'Église. On peut être très bon pour repérer les fausses doctrines, mais ne plus passer de temps dans l'intimité avec le Seigneur. Et cette rôle personnelle limite. Il faut se souvenir d'où on était, des moments d'intimité, et se repentir, c'est-à-dire changer, faire demi-tour et revenir à lui, pratiquer les choses qu'on pratiquait si on avait l'habitude de passer du temps dans la parole, de partir marcher en priant. C'est des choses qu'il faut remettre en place, sinon il peut quitter l'Église, il peut écarter le chandelier de sa place, c'est-à-dire que l'Église n'a plus d'influence. Il parle des Nicolaïtes, on ne sait pas trop ce que c'est, si ce n'est que d'après l'origine, l'étymologie, ça veut dire les Nicolaïtes, c'est ceux qui dominent sur le peuple. Nikos, c'est la victoire, c'est dominer. Nikaia, le nom de la ville de Nice, vient de là. C'était la déesse de la victoire, Nike, Nikaia. Et Laos, c'est pas le pays de Chine, c'est simplement le Nanochine, c'est le peuple. Et les Nicolaïtes, c'est ceux qui dominaient sur le peuple. Et en fait, c'est une référence à la séparation qui était instituée déjà à la fin de l'époque apostolique, donc vers la fin du 1er siècle, entre des spécialistes, le clergé, les prêtres, et puis les laïcs qui étaient un peu plus bas, qui n'étaient pas aussi proches de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est complètement contraire à la Bible. Il n'y a pas de hiérarchie, il y a des offices, il y a des postes, il y a des responsabilités, mais il n'y a pas de différence de niveau. Tous, on peut être aussi intimes l'un que l'autre du Seigneur. On peut avoir la même proximité, la même relation d'amour et de proximité. Le vainqueur mangera de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'église de Smyrne. Smyrne, ça veut dire amer. C'était le mot qu'on utilisait pour parler de la myrrhe. Aujourd'hui, cette ville est devenue en turc la ville de Izmir. Malheureusement, il n'y a plus d'église à proprement parler là-bas. La myrrhe, c'était une plante aromatique qu'on utilisait pour l'embaumement, pour les morts. Donc le mot de Smyrne, de myrrhe, ça fait penser à la mort. Et là aussi, il va parler de... Lisons ensemble à partir du verset 8. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Eux, l'église de Smyrne, ça parle de persécution, de souffrance. Les 10 jours de persécution, du verset 10, historiquement, on pense qu'il s'agit de l'Église qui a suivi la période des apôtres et qui a été une Église persécutée. Il y a eu 10 grandes vagues de persécution au début du 1er siècle et dans les siècles qui ont suivi, à commencer par Néron et Domitien et des empereurs romains qui se sont attaqués, qui ont persécuté l'Église. Le verset 11 nous dit, plutôt la fin du verset 11, « Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. » Donc, la lettre, c'est pour leur dire qu'en fait, malgré les morts, les persécutions, ils vont gagner, ils vont vaincre. Il est intéressant de remarquer que le Seigneur ne leur fait pas de reproches. Et que là aussi, ils pensaient qu'ils étaient pauvres. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Là aussi, l'Église va être surprise. Ils savent qu'ils sont battus, ils sont emprisonnés, persécutés, tués, martyrisés. Ils n'ont pas l'impression de faire une grande différence, mais le Seigneur leur dit qu'ils sont riches. C'est verset 11. La seconde mort, qu'est-ce que c'est ? C'est la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu pour toujours. Il y a trois types de mort. La mort du corps, c'est la mort, la séparation de l'esprit et du corps. Ça, c'est donc la mort corporelle. Il y a la mort spirituelle, qui en fait est le fait que notre esprit est séparé de Dieu jusqu'à ce que nous soyons nés de nouveau. Et puis il y a la mort éternelle qui est la séparation d'avec Dieu pour toujours. Et là on peut faire un petit calembour, dire que si on est né une seule fois, alors on va mourir deux fois. Mais que si on est né deux fois, on ne mourra qu'une seule fois. Bien sûr, si on est né une seule fois physiquement et qu'on n'est pas né de nouveau, qu'on n'a pas cet éveil et cette résurrection en nous de l'esprit qui nous permet de communiquer avec Dieu, on va mourir physiquement, mais on va mourir aussi éternellement, on va être toujours pour toujours séparé de Dieu. Par contre, si on est né une fois physiquement, né une deuxième fois spirituellement, cette naissance d'en haut, cette naissance de l'Esprit, dont parle Jean au chapitre 3 avec Nicodème, à ce moment-là, on aura la mort physique, en principe, sauf si c'est à la fin des temps, et on ne mourra pas éternellement. Donc, si on naît une fois, mort deux fois, naît deux fois, mort une fois. Petite formule mathématique pour les matheux. Pergame, c'était une ville célèbre de l'Antiquité. Le mot parchemin vient de Pergame. C'était le chartum de Pergame, les chartes de Pergame, parchemin, parce qu'ils avaient une grande bibliothèque et ils se battaient contre Alexandrie pour prendre la primauté au niveau des bibliothèques. Ils n'avaient pas les papyrus du Nil, donc ils utilisaient des peaux de veaux ou d'animaux qu'ils tannaient pour en faire des parchemins. Le mot Pergame, vous connaissez peut-être le mot monogame, polygame. Pergame, c'est un mariage pervers ou un mariage mixte. Et ça fait allusion au fait qu'en l'an 312, avec l'empereur Constantin, la foi chrétienne est devenue religion d'État. 312, et ça a duré à peu près jusqu'en 590. Et à son habitude, Satan, lorsqu'il ne peut pas détruire de l'extérieur, il va essayer de corrompre de l'intérieur ou d'attaquer de l'intérieur. Alors, lisons ensemble. Voici. Alors là, encore une fois, on va voir qu'il est question de la parole de Dieu, de la vérité. Voici ce que dit Donc en verset 12, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Toujours ce « mais » qui fait mal là, quand on l'entend. Tu as des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens qui maintiennent pareillement la doctrine nicolaïte, donc séparation du clergé et de des laïcs. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bien. Personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Jésus apparaît donc comme celui qui a l'épée à double tranchant, la parole de Dieu. Vous vous souvenez de Balak et Balaam. Balak voulait détruire Israël et il demandait à ce personnage un peu étrange, ce prophète païen Balaam, de maudire le peuple juif. Mais chaque fois qu'il essayait de maudire, des mots de bénédiction sortaient de sa bouche et finalement, Balaam, qui voulait se faire payer pour ses... par Balak, a trouvé la solution. Il a dit qu'en fait, le meilleur moyen de faire tomber les enfants d'Israël, c'était de les conduire à la débauche et à l'idolâtrie. Et c'est ce qui s'est passé. C'est en fait un mariage avec le monde qui a eu lieu. Ce mariage mixte, dont le mot que signifie le mot Pergame, ça a été ce mariage mixte. Et ça a été le mariage aussi de la religion, de la foi chrétienne avec l'État romain, l'Empire romain. Donc les deux grandes erreurs, ça a été l'immoralité et de penser qu'il y avait un clergé supérieur au reste des fidèles. Éphèse, Smyrne, Pergame, on arrive à l'église de Thyatire. Thyatire, le mot veut dire sacrifice continu. Et là, pour beaucoup, on voit l'église médiévale, probablement entre les années 590 et 1570, l'église catholique médiévale, qui est félicitée pour. C'est intéressant, c'est le passage le plus long, la lettre. À une église la plus longue, on va la lire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Le bronze, c'est le jugement. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Donc c'est plutôt pas mal, ça, comme rapport de notes, hein, comme carnet de notes. Ils bossent, ils aiment le Seigneur, ils ont de la foi, ils servent beaucoup. Ils persévèrent et ils font de plus en plus d'œuvres. Mais, verset 20, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici que je la jette sur un lit ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, toutes les églises connaîtront que moi je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire qui n'ont pas cette doctrine et qui n'ont pas, comme ils disent, connu la profondeur de Satan, je dis, ne mettez pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Avec un sceptre de fer, il fera paître comme on brise les vases d'argile, passage du psaume 2, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Jézabel, c'était cette femme, une princesse de Sidon, qui avait épousé le roi Achab, et elle était réputée pour sa grande méchanceté et son impiété. C'est elle qui avait des prophètes de Baal, qui avait institué l'adoration des prophètes de Baal. Et vous vous souvenez de l'épisode, son mari qui avait tout, en fait il voulait autre chose que ce qu'il avait, il voulait un champ de vigne, une vigne qui appartenait à un certain Naboth. Le problème, c'est qu'elle était vraiment déprimée. Et lorsqu'elle a appris ça, Jézabel a dit, c'est pas un problème, je m'en occupe. Elle a fait faussement accuser ce propriétaire, elle l'a fait exécuter et elle a donné le terrain à son mari. C'est elle qui était en colère parce que le prophète Élie avait mis au défi les 450 prophètes et il les avait battus, il les avait mis à mort. Mais Élie était terrifié par cette femme. Il est dit dans Deux Rois qu'elle était célèbre pour ses prostitutions et elle a une fin assez spectaculaire et un peu sanguinaire. Elle est tombée, plongée, c'était d'elle. Deux Rois 9:30, c'est pas moi qui l'invente. Le vainqueur, Apocalypse 22:16, nous parle aussi de l'étoile du matin qui sera donnée à celui qui vaincra. Le sacrifice continue, c'est bien sûr que dans l'Église catholique, à chaque fois, il faut, lorsque on prend la Sainte Cène, en fait, c'est une répétition mystique, mais réelle, du sacrifice de Christ. Et c'est en désaccord avec, bien sûr, la lettre aux Hébreux qui dit que Christ est mort une fois pour tous. Nous célébrons la Sainte Cène pour nous souvenir de ce que Dieu, ce Jésus a fait à la croix pour nous, mais non pas pour dire que mystiquement, le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. Ça, c'est en ce sens que Thyatire, c'est un sacrifice continu pour représenter l'Église catholique. Il est fait référence donc au retour de Christ dans cette lettre. Quand je reviendrai, il rendra à chacun selon ses œuvres. Personne ne souhaite que Dieu nous rende selon nos œuvres. On veut qu'il nous rende selon sa grâce. Je vous conseille, si jamais vous avez le choix, de demander sa grâce plutôt que le mérite de vos œuvres ou des miennes. Alors les protestants aiment bien qu'on dise qu'en fait, là, on voit l'église de Thyatire, c'est l'église médiévale catholique. Mais en fait, ils n'ont pas de raison de se réjouir parce que la prochaine église, l'église de Sardes, on pense qu'en fait, elle représente l'église protestante. Donc, 1570, après que Luther se soit rebellé contre la hiérarchie catholique, en découvrant Romains 1, 16, 17, que le juste sera sauvé par la foi et non pas par les œuvres, pas par les indulgences, payer de l'argent pour que votre âme aille du purgatoire au paradis. Sardes, ça veut dire le reste. On lit, voici ce que dit, chapitre 3 donc, verset 1, ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Sardes, c'était une cité antique qui avait été envahie à deux reprises, notamment par Cyrus en 546 avant Jésus-Christ, et par les Athéniens en 499 avant Jésus-Christ. Et à chaque fois, c'est parce qu'ils se croyaient en sécurité. Ils pensaient que leur position géographique, il y avait une falaise qu'il ne surveillait pas parce qu'il disait « Personne ne viendra jamais par là ». Et à deux reprises, ils se sont fait surprendre, comme par un voleur. Ils n'ont pas eu le discernement, les esprits, cet esprit de Dieu, la plénitude de l'Esprit Saint pour être vigilants. Et donc c'est le sens du message, sois vigilant, rappelle-toi, il faut veiller, sinon tu vas être pris comme un voleur. Il est question aussi des œuvres. Et là encore, l'Église allait être surprise, elle avait le renom d'être vivant, mais en fait, Jésus dit qu'ils sont morts pratiquement. Les noms aussi, ça parle des dénominations protestantes. C'est vrai que l'Église issue de la Réforme a bien commencé et puis elle s'est un peu assoupie, elle s'est un peu endormie. Elle a manqué de vigilance. Elle s'est fait infiltrer par le libéralisme qui remet en cause l'inhérence de la Bible, qui dit qu'en fait la Bible, il faut voir les passages qui s'appliquent vraiment, qu'il ne faut pas tout prendre à la lettre. Sans tout prendre à la lettre, on peut être sûr que ce que Dieu a dit, il voulait le dire, et ce qu'il voulait dire, il l'a dit. Et il faut bien sûr voir le style de la littérature. Est-ce que c'est de la poésie? Est-ce que c'est une allégorie? Est-ce que c'est un récit historique? Est-ce que c'est une explication théologique? Mais on peut prendre la Bible au pied de la lettre en comprenant de quel genre de texte il s'agit. Je n'effacerai pas le nom du livre de vie. Qu'est-ce que c'est ce livre de vie? C'est un livre dont il est question dans beaucoup de passages, à commencer par les écrits de Moïse. Dans l'Exode, il offrait que son nom soit enlevé du livre de vie. Et la meilleure façon, je crois, quand on regarde tous ces passages, c'est de penser qu'en fait, c'est un livre où est écrit le nom de tous les hommes et toutes les femmes pour qui Jésus-Christ est mort. Et si, lorsqu'ils meurent, ils n'ont pas vraiment reçu le Seigneur, à ce moment-là, leur nom est effacé de ce livre. Parce que ce n'est pas dans l'autre sens où, quand on vient à lui, le nom est mis. Le nom est déjà mis, parce que Christ est mort pour tous les hommes. Il ne veut qu'aucun homme ne périsse, mais qu'ils viennent tous à la connaissance de la vérité. Et donc, il ne dit pas, j'ajouterai le nom de ceux qui vont venir à moi, je dis, je n'effacerai pas le nom du livre de vie des vainqueurs. Et là aussi, parler du livre de vie, ça parle du retour de Christ et du futur. On continue notre parcours. Après Sardes, on passe à Philadelphie. Philadelphie, il n'est pas question de la ville d'Amérique. C'est plutôt l'inverse, la ville d'Amérique a pris ce nom parce que c'est un beau nom, et on va voir que c'est une église bénie. Philadelphie, ça vient de deux mots grecs qui veulent dire amour et frère, c'est l'amour fraternel. Et là, on pense que c'est l'église évangélique, missionnaire, qui a commencé au 19e siècle à aller annoncer l'évangile dans toutes les parties de la terre. Lisons ensemble, verset 7 du chapitre 3. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Verset 10, un verset encadré. Je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est une église qui n'a pas de reproches. Il est intéressant de, pour votre étude personnelle, c'est pas très long en fait, vous pouvez faire un tableau avec les sept églises et puis de l'autre côté les sept éléments, le nom, la description du Christ, le compliment, la critique, les mesures correctives, la promesse et puis le fameux leitmotiv de celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et en fait, on s'aperçoit que Smyrne n'avait aucune critique, et de même Philadelphie n'a aucune critique. Smyrne, c'était l'église persécutée. Par contre, Sardes n'avait pas vraiment de compliments, ainsi qu'on va le voir, celle de Laodicée. Il est question de, on l'a déjà cité, ce verset 3:10. C'est un verset en faveur d'un enlèvement de l'Église avant la tribulation. Je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. On comprend ça comme faisant référence à la grande tribulation dont parle Jésus dans Matthieu 24. Et il est intéressant de noter qu'ils vont être gardés non seulement de l'épreuve, de cette grande tribulation, mais de l'heure de l'épreuve. C'est-à-dire qu'ils ne seront même plus là. Je viens bientôt. Encore une fois, ça part de son retour. Et les promesses d'être une colonne dans le temple de Dieu, d'avoir une couronne. Et cette idée qui est reprise d'un passage de l'Ancien Testament, encore une fois, de cette porte que personne, qui une fois ouverte par Dieu, personne ne peut la fermer, et une fois fermée par Dieu, personne ne peut l'ouvrir. Ça, c'est l'église, l'église de la fidélité, les églises qui sont attachées à la parole de Dieu. Et qui ont un fardeau de mission, qui répandent la parole. Alors que l'église suivante, elle, c'est aussi un peu l'église apostate, c'est-à-dire l'église qui a dévié de la vraie doctrine. Lisons ensemble 14, c'est l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si tu seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre, c'est-à-dire un remède pour les yeux, pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Laodicée, donc, on pense que c'est l'Église qui se fait des illusions de la fin des temps, de notre époque. Il y a certaines églises qui, sans doute, devraient se reconnaître dans cette Église, qui pensent être riches, n'avoir besoin de rien, alors qu'en fait, elles sont malheureuses, misérables, pauvres, aveugles et nues. Il est question d'un collyre pour y voir clair. En fait, la ville de Laodicée était connue pour ses traitements pour les yeux, donc c'est une référence locale. Et puis il y a cette fameuse expression de « si seulement tu étais froid ou bouillant ». Ils n'avaient pas de chance à Laodicée. Ils avaient deux sources d'eau. Il y avait d'abord des eaux froides. Il y avait un lac qui avait des bonnes eaux bien fraîches. Ils avaient construit des canalisations pour la faire venir à l'Odyssée. Mais le temps qu'elle arrive, elle arrivait tiède. D'autre part, il y avait des sources chaudes, avec de l'eau très chaude, mais il l'a transportée à l'Odyssée, mais le temps qu'il l'amène, là aussi l'eau était devenue tiède. Et faisant référence à ces vérités historiques, à ces éléments anecdotiques, Jésus dit, si seulement tu étais bouillant ou froid, mais parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. C'est très fort ça, c'est d'être à moitié engagé pour le Seigneur, ça lui cause la nausée. Et là, on pourrait passer un peu de temps. La première fois que j'avais lu ce passage, je me disais, mais c'est quand même mieux d'être tiède, on est plus près d'être bouillant que d'être complètement froid. Mais là encore, le danger d'être tiède, c'est de croire qu'on n'a besoin de rien. Et il vaut mieux quelqu'un qui vous dise « je ne crois pas en Dieu » que quelqu'un qui dit « oui, je crois en Dieu, mais il ne faut pas être fanatique, ou oui, je vais à Pâques une fois tous les deux ans ». Quelqu'un qui est complètement opposé à Dieu, l'Esprit Saint peut faire une œuvre rapide dans son cœur, alors que quelqu'un qui pense connaître la Bible, qui pense savoir qu'il ne faut pas trop se bouger, cette personne, elle est en grand danger d'être vomie par le Seigneur de sa bouche. On a dit tout à l'heure le verset 10, c'est un verset à mémoriser. Un autre verset 20 qu'on connaît bien. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce qui est étonnant, c'est que souvent on utilise ce verset en dehors de son contexte. Ça, c'est le grand verset des évangélistes. Hein, on dit que quand on est ému par une prédication, par un témoignage, par un message sur l'évangile, on dit c'est le Seigneur qui cogne à la porte et si tu ouvres la porte de ton cœur, alors il va venir avoir cette vie d'intimité avec toi. Et c'est vrai, mais dans le contexte, c'est bien plus terrible. En fait, c'est Christ qui frappe à la porte d'une église. Et apparemment, l'église apostate de la fin des temps, peut-être de notre époque déjà, elle est en telle situation de détresse spirituelle que Christ est au dehors, il n'est même plus dedans. Et en se gardant de juger, parce que quand on juge quelqu'un, on a un doigt vers quelqu'un, un doigt qui le pousse, qui reproche, fait des reproches à Dieu, et trois doigts qui se pointent vers moi, vers nous. Mais c'est vrai qu'il y a des églises aujourd'hui qui construisent des facilités remarquables qui dépensent des milliards de dollars sans pour autant qu'il y ait besoin de ces... Il y a des églises qui dépensent beaucoup d'argent, mais c'est parce qu'ils ont un ministère qui grandit, il y a du monde, il y a des missions, mais il y a beaucoup d'églises, notamment aux États-Unis, qui dépensent beaucoup pour leurs propres besoins et sans penser à l'extérieur. Et on peut demander aussi au Seigneur qui nous garde de ça. On n'est pas riche, mais on a pu faire des choses. Et avec cet argent, on peut aussi faire d'autres choses pour le Seigneur. Donc encore une fois, c'est une église qui va être surprise, parce qu'elle se pense en sécurité, elle pense n'avoir besoin de rien. Et le Seigneur lui dit, en fait, si tu ne changes pas, et c'est ça qui est encourageant, verset 19, il est prêt à accepter ceux qui se repentent, ceux qui changent de démarche, et il est prêt à les prendre avec lui sur son trône. Donc ça, c'est en gros le panorama de l'histoire de l'Église, en plus de l'histoire locale des Églises qui ont existé vraiment. Il y a quelques petites remarques intéressantes, c'est que sur ces sept églises, il y en a trois qui ne parlaient pas du retour du Seigneur, les trois premières, Éphèse, Smyrne et Pergame. Par contre, les autres, Thyatire, Sardis, Philadelphie, Laodicée, parlent du retour du Christ Et on prend ça pour dire qu'en fait, ces quatre dernières églises seront là lorsque le Christ reviendra. Par contre, les trois premières, ça peut sembler être de l'histoire passée. Il y a aussi des... Quand on compare les éléments, et c'est très intéressant à faire sous forme de tableau, on voit que le petit refrain que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, c'est le dernier verset, la dernière chose dite pour les quatre dernières églises, alors que c'était l'avant-dernière chose après la promesse, et là encore ça peut conduire à penser que ces quatre dernières églises seront encore là lorsque Christ va revenir. Il y a d'autres passages dans la Bible où il est question de sept choses, et notamment, on avait vu la semaine dernière que les lettres de Paul sont écrites à sept églises. Alors on peut faire un petit parallèle, pardon. Éphèse, bien sûr, il y a eu la lettre aux Éphésiens, c'est la même église. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il n'est pas question de l'église de Rome, l'église de Jérusalem, l'église d'Antioche, l'église d'Iconium, de Derbe, de Lystre, toutes ces églises dont il est question dans le livre des Actes. Encore une fois, c'est parce que cette combinaison des sept églises, elle représente un panorama complet des problèmes qui peuvent se passer dans toutes les églises et aussi du déroulement de l'histoire de l'église. Donc Éphèse, c'était cette grande église que Paul avait implantée. Bien sûr, ça correspond à la lettre de Paul aux Éphésiens. Smyrne, on a dit que c'était la souffrance, et en même temps, il y avait la persévérance, il y avait la joie, et ça fait penser à la lettre de Paul aux Philippiens, qui écrit depuis sa prison pour encourager les Philippiens à être remplis de joie, à ne pas se faire de soucis. Pergame, encore une fois, c'est le compromis avec le monde, c'est le mariage mixte. Et ça, c'est une ville qui était mondaine, comme ça, qui était vraiment, qui avait beaucoup de problèmes. Une église à laquelle Paul écrit, c'est l'église de Corinthe. Donc Pergame, on peut la mettre en relation avec Corinthe. Thyatire, c'était l'idolâtrie. Ça fait penser au problème de l'idolâtrie dont parlait Paul dans la lettre aux Galates. Sardes, on a vu que c'était la parole de Dieu qui était mise en valeur. Ça fait penser à la lettre de Paul aux Romains. Philadelphie, c'était le parler du retour de Christ. Les épîtres de Paul qui parlent du futur, d'eschatologie, c'est les lettres aux Thessaloniciens 1 et 2. Laodicée, en fait, la ville qui était à côté de Laodicée, c'était la ville de Colosse, la ville de l'épître aux Colossiens. Donc on peut voir un petit parallèle comme ça. Mais il y a une autre parallèle qui peut être dressé avec un passage de Marc, de Matthieu 13. Matthieu 13, c'est le passage des paraboles du royaume. Et j'ai pas toute l'information là, mais je vous laisse ça en guise de petit exercice, de réflexion personnelle. C'est que on peut voir pour chacune de ces paraboles un parallèle avec une des églises. Alors les sept paraboles, si vous vous souvenez, il y avait la parabole du semeur, la parabole de l'ivraie qui poussait au milieu de blé et qui était séparé par la suite. Il y avait le grain de moutarde qui était tout petit mais qui grandissait comme un arbre où venaient loger tous les oiseaux du ciel. Il y avait le royaume la parabole du levain pour décrire le royaume des cieux. Et ça, c'était la femme qui avait mis un peu de levain jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Il y avait le trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Il y avait la perle de grand prix. Et puis, il y avait le royaume des cieux qui était comparé à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. Alors, comme petit exercice, c'est d'essayer de faire un rapprochement entre chacune de ces sept paraboles et chacune des sept églises de l'Apocalypse. Alors, ce n'est pas des parallèles complets, mais le levain, par exemple, c'est quelque chose qui corrompt, ça fait penser à Jézabel et à l'église de Thyatire. La perle de grand prix, la perle, c'est quelque chose qui est causé par la souffrance. Une huître produit une perle parce qu'elle a une irritation, un grain de sable qui l'irrite. Et pour enlever cette souffrance, elle va créer cette perle autour. Et cette perle, finalement, elle est utilisée en tant qu'ornement. Et ça, la comparaison, ça peut être fait avec Philadelphie, qui va être qui est la belle église auquel on aimerait bien être tous comparés, qui va être une décoration dans le temple de Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, c'est une idée intéressante d'essayer de faire des rapprochements comme ça. Je vous laisse faire cela. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Donc, cette double perspective historique et aussi locale à l'époque. Et encore une fois, ces problèmes, c'est des problèmes qui s'appliquaient à une église ou à une période de l'histoire de l'église, mais les mêmes problèmes peuvent se produire en même temps dans toutes les églises. Et c'est à nous d'être vigilants, d'avoir des oreilles pour écouter ce que l'Esprit nous dit. Amen.